Vendredi 15 janvier 2016, à la médiathèque de Bourges, 8 classes de cycle 3 ont rencontré Isabelle Damotte, poète. Ces classes des écoles élémentaires Barbès, Beaumont-Carolus, Nicolas Leblanc, Jean Massé de Bourges, Le Bourg de Saint-Doulchard et primaire Maxime Durutin de Fussy ont participé à une des 4 rencontres organisées autour des recueils d'Isabelle Damotte. Ces 6 écoles sont toutes labellisées « Écoles en poésie ». Cette émission radio retrace les moments forts de ces rencontres.
Oui.
Depuis combien de temps vous êtes poète?
Alors ça, c'est une question difficile parce que, en fait, maintenant je me dis que ça devait être depuis ma naissance, en fait. Tu sais, c'est comme si je portais ça en moi depuis toujours, en fait. Alors, le premier livre que j'ai publié, je l'ai publié, je crois que c'est 2008, c'est celui-ci, on ne sait pas si ça existe les histoires, mais voilà, c'est celui-là.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez la poésie?
Au moment où j'écris, je me dis je vais jamais y arriver. Est-ce que tu es déjà allée à la piscine? Est-ce que tu as déjà monté? Tu as déjà regardé, quand tu étais petite, tu te souviens, tu as regardé le grand plongeoir avec les grands qui faisaient des sauts périlleux en sautant? Ça t'est arrivé? À qui c'est arrivé ça? Quand on est petit, on va à la piscine et puis il y a souvent un grand plongeoir et on voit les grands, c'est souvent des garçons. Ils montent tout en haut, hop, et ils sautent et ils font le plus de vagues possible en sautant ou ils font des figures. Ça fait envie, mais on se dit, oulala. Et bien, quelqu'un qui veut écrire, c'est un peu comme ça. Il regarde le grand plongeoir et il se dit, oulala. Puis un jour, comme il en a vraiment trop envie, il monte sur l'échelle du grand plongeoir. Il arrive tout en haut. Et quand on arrive tout en haut, ça fait encore plus peur que quand on est en bas. Parce que ça paraît encore plus haut. Ben ça, c'est exactement quand on écrit. Quand on écrit, on se dit, oulala, j'aimerais écrire. Et puis au moment où on essaye, où on a tout ce qu'il faut pour écrire, quand on arrive, c'est comme quand on arrive en haut du grand plongeoir. On se dit, oulala. Et alors, si on veut écrire, il faut fermer les yeux et, ouf, surtout pas regarder où on va, se laisser aller. Voilà ce que je ressens quand j'écris. Voilà, il faut, en même temps on a peur et en même temps il faut dire, on se dit, allez, vas-y. Est-ce dedans ou dehors la caresse confiante de l'été? Est-ce dedans ou dehors, ta joue et la mienne appuyées contre le ventre arrondi. Je répète ton prénom, Léopold. Pierre, feuille, ciseaux, je suis l'aîné. Cette année, j'apprends à lire, mais je sais compter déjà. C'est presque mon anniversaire et je t'attends. Oui.
Comment vous avez fait pour le premier poème que vous avez écrit? Vous avez eu de l'imagination?
Alors le poème, premier poème que j'ai écrit, j'étais petite, parce que quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de poèmes. De l'imagination, pendant longtemps, j'ai cru que je ne serais pas un vrai écrivain, parce que je n'avais pas d'imagination. Je croyais que pour être écrivain, il fallait inventer des histoires, être capable de ça, d'inventer. Et puis j'ai mis longtemps à découvrir le secret des écrivains. Et en fait, le secret des écrivains, c'est pas tellement qu'ils inventent des histoires, c'est qu'ils regardent autour d'eux et qu'ils écoutent ce qui se dit et qu'ils vont plonger en eux-mêmes dans leurs souvenirs. Et c'est avec toute leur vie qui fabriquent des histoires. Mais ça, ils ne le disent pas toujours. Ils disent « j'ai inventé ». En fait, quand on écrit avec ses émotions. Quelquefois, on me demande « est-ce que c'est vrai tout ce qui t'est arrivé dans ces livres ?» Alors, je dis, d'abord, je garde mes secrets, et puis je dis « ce qui est vrai, c'est que toutes les émotions qui sont dans ces livres, c'est des émotions que j'ai ressenties. Déjà, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand on écrit, on ne sait pas ce qu'on va écrire. Ça, c'est la chose la plus importante. Peut-être quelquefois, on vous a demandé d'écrire des choses, on vous a dit réfléchissez bien avant d'écrire. Et oui, pour ne pas écrire de bêtises. Mais ça, un écrivain, il ne vous dira jamais ça. Un écrivain, il vous dira ne réfléchissez pas avant d'écrire. C'est très important. Si vous réfléchissez avant d'écrire, c'est terminé. Vous n'écrirez pas. Il ne faut pas réfléchir avant d'écrire. Il faut écrire beaucoup, laisser venir les choses. Et là, quelquefois, on est étonné de ce qui vient. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Et là, on découvre ce qu'on va écrire. Et c'est à ce moment-là qu'on réfléchit, quand on travaille son texte. Mais d'abord, il faut commencer par ne pas réfléchir. Par exemple, je vais vous donner un exemple de ce que je vous dis dans Frère. J'avais fait mon premier livre et je ne savais pas du tout, tout le monde me disait « Alors, le prochain, c'est quoi ?» Et moi, je ne savais pas du tout ce que ce serait le prochain. J'avais pas de projet, mais je me baladais avec mon appareil photo. Et je prenais des photos d'étendage. Vous savez ce que c'est un étendage ? Alors, qui veut dire ? Il y a sûrement quelqu'un qui a une idée. J'habite dans la Drôme, un pays où il y a beaucoup de soleil, il y a du vent, et ça sèche les vêtements. Et donc, il y a beaucoup de maisons avec des jardins. J'habite un village. Et donc, quand on a du vent, du soleil, une maison avec un jardin, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a du linge ?
On étend le linge.
Voilà, on étend le linge dehors. Et moi, j'aime beaucoup regarder les étendages. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'un poète, il écrivait avec ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. J'aime beaucoup regarder les étendages parce que ça raconte les histoires des familles. Par exemple, s'il y a un étendage avec des petits pantalons, ben je sais que c'est une famille où il y a un petit garçon. Si c'est des étendages avec des grandes blouses de mamie, je sais que c'est la maison d'une grand-mère. Ça raconte plein de choses, les étendages. Voilà. Et un jour, je me promène, je prends et je vois un étendage très particulier. Parce que sur cet étendage, il y avait, vous savez quoi ? Il y avait 7 culottes. 7 culottes blanches, grandes, comme ça. Ça faisait un bel étendage. Et je me suis dit, mais qui est-ce qui vit dans cette maison ? Qui est-ce qui a ? Ça doit être quelqu'un qui a les fesses assez grosses pour pouvoir remplir les culottes. Alors je me suis dit, ça doit être une ogresse. Comme il y a 7 culottes, il doit y avoir 7 ogresses. Et j'ai écrit un texte, sans réfléchir. J'ai écrit ce texte. Alors, dans le livre, après, c'est une maman qui raconte une histoire à ses enfants, le soir. C'est une maman qui raconte une histoire à ses 2 enfants. Il y a un grand garçon et une petite sœur qui sont dans des lits superposés. D'accord ? Les 7 femmes de l'ogre ouvrent les lits et battent les oreillers. Ne froissez pas les draps. Celui qui dort en haut ferme les yeux. Celle qui dort en bas guette les pas. Les 7 femmes de l'ogre caressent les fronts et les bouches d'argent. Elles remontent les draps. Ne vous découvrez pas. Celui qui dort en haut ferme les yeux. Celle qui dort en bas guette les pas. Les 7 femmes de l'ogre, menton fleuri, des poignets ronds au ventre nu, dévorent leurs petits. Celui qui dort en haut ferme les yeux. Celle qui dort en bas guette les pas. Elle pense, ce n'est pas l'ogre, comme on le dit. Ça, c'est le premier poème qui est venu. Je me suis dit, ce n'est pas les ogres qui dévorent les enfants, c'est les ogresses. Et à ce moment-là, j'ai su que je voulais écrire un livre qui réponde à une question que j'avais en moi depuis que j'étais toute petite. C'est comment ça se fait que dans des maisons, parfois, il y a des bébés qui disparaissent, qui meurent. comment ça se fait que parfois les mamans font disparaître leur bébé. Et j'ai écrit ce livre pour répondre à une question, celle-là. Souffle, profilé dans le chat de l'aiguille, tu marches pieds nus sur le fil. Léopold. Le bleu s'étend sur la feuille mouillée. Le dessin de l'aile transparaît à peine. Le petit frère est mort. Les syllabes prononcées se referment. Alors, vous avez vu le gros chagrin qui arrive, c'est quoi ? Oui.
C'est qu'il y a un petit garçon qui est mort.
Voilà, c'est que le petit frère qu'on attendait, il est mort. Voilà. Et ça, c'est le début du livre. Et regardez le gros chagrin. Vous l'avez vu, le gros chagrin, là ? Alors, là, je vous montre. Hein ? Vous le voyez ? Vous le voyez ? Vous le voyez ? Qu'est-ce qu'il fait à chaque fois ? Il est de plus en plus petit. Hein ? Parce que dans tout le livre, le grand frère, il va continuer de parler à son petit frère qui est mort. Et il va faire, je ne peux pas vous lire tout le livre, vous le lirez en classe, ils vont faire plein de jeux ensemble, ils vont se parler. Et voilà, tous les textes racontent ces jeux, et même le papa, il va faire des choses. Il va, est-ce qu'on oublie quelqu'un quand il est mort ? Ben non, on continue de le faire vivre dans son cœur. Alors regardez le papa ce qu'il fait, vous fermez vos yeux ? Papa frotte, rince, étend au soleil nos vêtements. Il pense que le short tomberait un peu grand sur tes genoux. Mais il laisse pour toi, dans la poche, les petites billes jaunes du pistolet à plomb, la craie qui trace le camp des prisonniers. Quand on lit un livre de poésie, on a le droit d'imaginer plein de choses, et ces choses-là, elles vous appartiennent à vous, elles sont différentes pour chaque enfant. Regardez. Vous savez pourquoi j'écris de la poésie ? J'écris de la poésie pour ça. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit du blanc et du noir. Vous êtes d'accord ? Il y a plus de blanc ou il y a plus de noir ? Il y a plus de blanc. Vous savez ce que c'est le blanc ? C'est ce que vous venez de faire. C'est le travail du lecteur. C'est tout ce qu'on imagine. D'accord ? Et le noir, c'est le travail de l'écrivain. D'accord ? Alors un livre, ce qui est formidable, c'est que si toi tu lis un livre d'Isabelle Damotte, à cause de tout le blanc où tu mets tes choses, toi tu vas lire le livre d'Isabelle Damotte et dans le blanc tu vas mettre plein de choses. Est-ce que vous allez lire le même livre ? Non. Est-ce que vous allez voir exactement les mêmes choses ? Non. Et grâce à vous, grâce à mes lecteurs, il y a autant de livres différents que de lecteurs. C'est génial. En fait, tu écris un livre et en fait, tu en as 3000 différents. C'est magique. Alors, si un jour plus tard, quand on vous demande d'expliquer de la poésie, on vous dit « Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ?» Vous, dans votre tête, dans un petit coin de votre tête, vous sourirez un peu parce que vous saurez que l'auteur, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire quand il écrit. Il écrit des choses qui lui viennent, mais il ne sait pas exact, il sait pas ce qu'il a voulu dire lui-même. D'accord ? Et puis, si jamais vous avez une idée et que vous dites « Il a voulu dire ça parce qu'à tel endroit, moi, je vois ça », et qu'on vous dit « Ah ben non, ce n'est pas vrai », vous pourrez vous dire « Mais moi, j'ai le droit. J'ai le droit de penser ça. J'ai le droit de voir ça. » On a toujours raison quand on lit la poésie. D'accord ?
Les mauvais vêtements. Je lâche toutes les gars.
Ça me touche beaucoup, surtout ce texte, parce que ce texte, il est paru il n'y a pas bien longtemps, et donc je ne l'ai jamais lu encore à des enfants, des adultes, et je n'ai jamais entendu. Donc c'est vraiment... c'est quelque chose pour moi. En plus, je l'ai écrit pour un petit garçon, Timothée, à qui je ne peux pas le donner. Donc, vous entendre comme ça, c'est... voilà, c'est les enfants qui font des cadeaux aussi, il n'y a pas que les poètes. Oui.
Est-ce qu'on a besoin d'inspiration pour écrire de la poésie?
Oui, on a besoin d'inspiration. Parce que quand on commence à écrire la poésie, on ne sait pas ce qu'on va écrire, comme je te l'ai dit. Alors, qu'est-ce que c'est l'inspiration? Qu'est-ce que c'est l'inspiration? C'est difficile, hein? Eh bien, en fait, tout d'un coup, il y a des idées qui viennent toutes seules, des idées qu'on n'avait pas prévues. Mais ça, on est tous capables d'avoir de l'inspiration, je pense. Il suffit d'aller chercher en soi. Il suffit d'aller chercher au fond de soi des choses qui sont importantes pour nous, des choses qui n'appartiennent qu'à nous. Et quand on pense à ces choses-là, on commence à écrire. Oui ?
Est-ce que vous avez prévu de réécrire un autre livre ?
Oui, alors là, j'ai un livre qui va sortir en 2017, qui s'appelle Le gâteau tout seul, qui est un livre de poèmes pour enfants. Chaque texte est un... Chaque texte a un nom de gâteau. Voilà, 2017 aux éditions Soc et Foc. Et puis là, je suis en train de travailler sur un manuscrit que j'avais envoyé à des éditeurs, et puis finalement, je me dis non, tu l'as envoyé trop tôt. Et là, la vie d'auteur, c'est quelquefois quitter sa maison pour aller dans un autre endroit pour écrire. Donc là, je vais du côté de Nantes. Je vais être pendant 12 semaines, toute tranquille, sans personne pour m'embêter, et je vais pouvoir écrire ce livre. Ça s'appelle une résidence d'auteur. Et puis il y a des jours quand même où j'irai rencontrer des enfants, ou faire des lectures. Il y a un truc que vous pouvez faire pour écrire de la poésie. Prenez plein de livres de poésie qu'il y a dans votre classe. Je suis sûre qu'il y en a plein, parce que vous êtes la belle, le printemps des poètes et tout. Et vous prenez un petit carnet, et vous notez dans ce petit carnet, au fur et à mesure que vous lisez des livres, que vous lisez des poèmes, vous notez tous les mots et tous les petits morceaux de phrases et toutes les phrases qui vous plaisent. D'accord? Comme si vous alliez à la chasse au trésor. Les livres de poésie, c'est plein de trésors. Ces trésors, ça peut être des jolis mots, et ça peut être des petits bouts de phrases, ça peut être des phrases en entier. D'accord? Et comme vous avez rempli plusieurs pages de votre petit carnet, avec ces mots que vous avez volés aux poètes, mais les poètes, ils sont d'accord, et même vous fabriquez votre poésie. Pratiquement que avec les mots des poètes. D'accord? Et vous faites ça, et vous verrez tout ce que vous avez fait des poèmes différents à partir des mêmes livres au début. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle faire des centons. C-E-N-T-O-N. Des centons. Et comme ça, vous avez lu plein de poèmes, et vous allez voir que c'est vraiment rigolo d'en écrire. C'est vraiment sympa. Vous savez, les poètes, ils ont le droit d'écrire où ils veulent. Ah, vous savez où j'écris, moi? Allez, qui tente sa chance pour deviner? Oui? Exactement. Je me mets dans mon lit avec plein d'oreillers. S'il fait froid, je suis un petit édredon, tranquille. Et je prends mon ordinateur. Moi, j'écris qu'à l'ordinateur. Et voilà. Et des fois, je passe comme ça 3 heures. Et au bout de 3 heures, j'ai écrit 10 lignes. Je me dis, mais aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai eu plein d'inspiration. J'ai écrit 10 lignes. Je suis très contente. Après, je suis de bonne humeur toute la journée. Et le lendemain, je reprends mon ordinateur. Je regarde ce que j'ai écrit. Je le lis à voix haute. Parce que pour écrire de la poésie, et même pour écrire des histoires, c'est très important d'entendre ce qu'on a écrit. Et quand je l'entends, je dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Et là, j'enlève plein de choses et à la fin, il reste 2 lignes. Voilà. Et je recommence. C'est pour ça que c'est beaucoup de travail, hein, parce qu'on n'arrête pas de faire des choses et de les jeter à la poubelle après. À la petite poubelle de l'ordinateur. Jusqu'à ce qu'on soit vraiment content. Après, on envoie un éditeur et il nous dit « Ah, c'est bien, mais il faudrait travailler encore un peu. » Je vais vous lire peut-être Timothée, puisque je ne l'ai encore jamais lu. Alors, heureusement qu'il n'était pas plein d'eau. Donc, dans ce livre, il y a deux textes très différents. Il y en a un, c'est un enfant qui parle, et l'autre, c'est un adulte qui parle. Alors moi, je vais vous lire celui où l'enfant parle. Je vais lire le début, puis je vais m'arrêter à un moment. Hein? Vous essayez simplement, un peu comme si vous étiez au cinéma devant un grand écran, vous écoutez et vous essayez de laisser venir les images. D'accord? Avant, on aimait jouer dans les maisons abandonnées, casser les vitres et se sauver. Regarder maman dormir tout le matin et aller chercher le pain. Avant, les coups de bec rouaient la nuit de cris. Je découpais des armes, des ailes d'oiseaux aussi. Je ne savais pas qu'à cause de moi, maman fermerait les volets, que tout le noir de ses yeux coulerait sur ses joues quand la dame m'emmènerait mes nouvelles baskets rouges aux pieds. Dans le bureau de la dame qui sait tout, je repousse la chaise. Je suis une étoile de mer cachée sous le rocher, bras serrés, petite ventouse sur les mots. Elle parle lentement, dit « famille d'accueil ». Maintenant, chez eux, je dois dormir le soir, me lever le matin, manger à table, mettre les nouveaux vêtements. Je cache toutes les armes et les oiseaux sous l'oreiller. C'est mon secret. Je crie, mais pas aussi haut que les vagues. Mais pas plus fort que mes 6 ans. Rendez-moi ma vie d'avant. Lui, il frotte tout doux ma colère dans sa fourrure, la serre à l'étouffer et secoue sa crinière pour me faire rire. Elle, le soir, glisse des histoires sous les draps, range mes chagrins juste à côté des siens. Qui sont guéris. Elle dit, il ne faut pas perdre ses chagrins, il faut leur parler, les aimer bien. Le jour des visites, papa sent bon, il est presque le papa d'avant, à la maison. Le jour des visites, parfois, c'est pas le bon, c'est un jour sans queue ni tête. Vaut mieux le repousser d'un coup de pied comme un ballon. Le jour des visites, on saute au cou de maman. Sa bouche est pleine de baisers, ronds comme des papayes. Le jour des visites, parfois, elle est trop fatiguée. Je m'enterre sous les feuilles, avec des pierres dessus. À l'école, je lance mon lasso de colère. Autour du cou de tout ce qui bouge. Je déteste la maîtresse qui m'aime bien. Quand elle est rouge comme une praline, je n'en fais qu'une bouchée et qu'elle m'assoie à côté d'elle à la récré. Et puis, si je veux, j'enlèverai la coquille des escargots, j'arracherai les pattes des sauterelles, je sortirai les poissons de l'eau. Mais Sarah me regarde. Alors, je tourne autour de l'arbre avant de l'attraper. Mes deux mains ouvrent son visage. Je prends son sourire qui dure longtemps. Je le lui rends. Tout m'échappe. Les billes roulent par terre. Je ne ramasse rien. Poing serré. Je ne retiens que ce qui est loin. Ils sont là, la dame, et lui qui frotte tout doux ma colère, et elle qui glisse les histoires sous mes draps, et celui qui décide, tout cela autour de la table. Ils m'ont dit que bientôt, ce serait mieux pour moi. J'irai dans une autre famille d'accueil. Mais après, je pourrais rentrer à la maison, chez nous. Et j'ai bien vu qu'elle avait un nouveau chagrin, le mien. Il ne faut pas perdre ses chagrins. Il faut leur parler, les aimer bien. Dernière vacances d'été en Bretagne. Lui me recouvre de sable. Elle prend des photos quand je cours vers l'eau. Le soir, dans mon lit, les étoiles de mer sortent de dessous les rochers. Chaque matin, les bols sont déjà posés sur la table. Le Queen Yaman est à peine chaud. Soleil coulé et grains de mer collés aux doigts, aux joues. Ne pas les essuyer encore. Ne pas perdre ses chagrins, leur parler, les aimer bien. Je saute le mur le plus haut. Je tombe à côté des mots. Elle dessine bien droit sur le fil un funambule. Plus tard, tu pourras, sans remuer ciel et terre, nous retrouver. Tu sais, là où je t'attendrai. Et voilà. Voilà le premier texte de ce livre, le livre de Thuron. Un jour, j'étais dans une classe et je faisais écrire les enfants, c'était après Noël. Et voilà. Et puis il y a un petit garçon qui m'écrit. C'était un petit garçon qui était d'ailleurs très sot. Et il fallait dire ce qu'on aimait bien faire après Noël. Et lui, il m'a dit, moi, après Noël, j'aime assommer les oiseaux. J'aime bien avec mon frère, on part et on va assommer les oiseaux. Alors ça m'a paru d'abord terrible, et en même temps je me suis dit, il y a quelque chose de beau dans cette phrase. Et comme je suis poète, je vole tout ce que j'entends, je l'ai gardé dans un petit coin de ma tête. Et après, je l'ai mis dans un poème. Alors par exemple, ce livre il s'appelle « On ne sait pas si ça existe les histoires vraies ». Et c'est l'histoire de 7 enfants qui sont séparés de leurs parents et qui sont dans un lieu. On ne nous dit pas exactement ce que c'est ce lieu. Peut-être c'est un hôpital, peut-être c'est une colonie de vacances, peut-être c'est une pension, voilà, on ne sait pas très bien. Et ces 7 enfants qui ont tous des âges différents, la petite fille, la première dont je parle, Judith, elle a 3 ans. Et ils ont des prénoms différents, il y a Judith qui a 3 ans, il y a Adrien, il y a Philémon, il y a Marco, il y a Pierre, il y a Luc, il y a Bernardine. Bernardine, elle est très spéciale. Parce que Bernardine, elle est arrivée dans ce lieu quand elle était une toute petite fille, et elle est restée. Et elle est devenue une grande personne. Voilà. Et donc, il y a Marco. Je vais juste vous lire le début de Marco. Chaque enfant parle et raconte son histoire. Alors, vous allez fermer les yeux. Je m'appelle Marco. J'ai 7 ans. Mon grand frère Fiorenzo traverse avec papa les berges inondées. Il ramasse des pierres. Il aime, quand il fait beau, assommer les oiseaux. Avant, la péniche traversait le silence, maman immobile tirait le fil. Je regardais ses mains défaire l'ourlet, révéler les couleurs dérobées. Juste ça. On ouvre les yeux. Alors, vous avez vu, vous avez entendu le petit morceau que j'ai piqué au petit garçon? Ah, ils font ça souvent, les poètes. Ils volent des mots partout. Oui, alors, on revient à l'imagination. J'ai pas perdu le fil. Donc vous avez vu que les poètes, souvent, c'est des voleurs. Ils volent des mots, ils volent des images, et puis aussi, ils réfléchissent, et ils réfléchissent à tout ce qu'ils ont ressenti dans la vie. Toutes les petites joies, tous les chagrins, tous les bonheurs, toutes les larmes, et c'est avec tout ça, avec toutes ces émotions, qu'ils fabriquent leur poésie. Bien, je vais vous lire un poème qui vient de paraître dans une revue. On m'a demandé de faire un texte sur le travail. Moi, j'ai pensé, j'avais un texte que j'avais déjà écrit avant, que j'ai envoyé, sur le travail de mon papa et de ma maman. Et en lisant ce texte à des enfants, je me suis aperçue que les mots, c'était comme les poètes. Des fois, c'était vivant et après, ça mourait. Par exemple, si je vous dis le mot chambourcy, pour moi, c'est un mot vivant. Pour vous, est-ce que ça veut dire quelque chose, chambourcy? Et pour les maîtresses? Et voilà, vous voyez, pour les maîtresses, c'est un mot vivant et pour les enfants, c'est un mot mort. Alors, chambourcy, c'était une marque de yaourt, comme Danone. Et il y avait une pub à la télé qui disait « Chambourcy, oh oui !» C'était la pub à la télé. Voilà. Est-ce que vous savez qu'autrefois, sur les parkings, les caddies, ils n'étaient jamais rangés? Vous savez pourquoi ils n'étaient jamais rangés? Parce que pour prendre un caddie...
Parce qu'il n'y avait pas encore la chaîne pour attacher les uns dans les...
Voilà, et surtout, il n'y avait pas les jetons.
Tu peux se ranger, les poser quelque part, ça...
Ben, du coup, on prenait le caddie, et puis on le vidait, on le laissait à côté de la voiture. Puisqu'il n'y avait pas besoin de jetons. Donc, on n'avait pas besoin de mettre un jeton, ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de le récupérer. Et donc, oui...
Il les volait aussi, après.
Voilà, mais c'est surtout qu'ils n'étaient pas rangés. Mais par contre, il y avait un métier qui existait. Il y avait quelqu'un dans les supermarchés qui était chargé... de ranger les caddies. Et mon papa, il faisait ce travail-là. Voilà. Alors maintenant, je vous dis mon poème, avant qu'on se quitte. C'est un poème qui parle de mon papa et de ma maman pour de vrai. Le père travaillait sur le parking, alignait, poussait les caddies à l'abandon. C'était avant le coup des jetons. La mère, avant, gouvernante dans un grand hôtel, avant les enfants, le mariage, avant d'avoir ce qu'elle avait voulu, avait croisé Cary Grant. J'ai perdu la photo. La mère, mi-temps à Chambourcy, rapportait le jeudi à midi les yaourts périmés. Pour la première fois, neige et fruits mélangés. La tête nous tournait à force de souffler dans les moulins à vent. La mère, avec l'argent des caddies et des rayons, le père devenu chef des rayons, la mère avait acheté un costume, que ça se voit, et un après-midi, pour nous, des chaussures Hush Puppies. On partait à l'école avec des chiens aux pieds, maman très fière de son affaire. Le père, le jour des 2000 francs, a découpé le gigot pour fêter ça. La grosse Nadia à l'école s'enflait comme un bœuf avec sa phrase majuscule, point à la ligne. Mon père gagne 5000 francs par mois. L'autre gamine avec le reste, avec le geste, mon manteau, il a coûté la peau des fesses. Le père, à la fin, faisait les marchés. Juste pour la voix haute, le rire pas caché sous la cape. Ça valait la peine de charger la voiture. La mère, quitte à manquer de tout, avait manqué de temps. Elle avait prévenu. Vous verrez, il sera trop tard quand vous irez poser des fleurs sur ma tombe. On n'y va pas souvent sur la tombe. On regarde les films de Cary Grant. On pense au père. On vérifie qu'on a bien, dans sa poche, son jeton de caddie.
Les élèves de CM1 de l'école élémentaire Barbès à Bourges ont posé des questions à une élève, une enseignante et bien sûr à Isabelle Damotte.
Je m'appelle Julia Sanogo, j'ai 9 ans et je suis à l'école Nicolas Leblanc.
Aimes-tu les poésies de Isabelle Damotte ?
Oui.
De quoi parle-t-elle ?
Ça dépend, ça parle de la mort, des enfants.
Aimes-tu un de ses poèmes en particulier ?
J'aime bien Frère.
Peux-tu le réciter ?
Je m'appelle Frère, j'ai 3 ans, ma mère est belle, ses yeux sont verts. La nuit, mon père galope sur un grand cheval noir. Ma mère... je déroule...
Non, c'est ma mère déroule sur la table un grand ruban rouge.
Sur les vêtements propres.
Qui attend
sur la table. Donc,
comment as-tu découvert ce poésie ?
Avec la maîtresse en classe.
On a cherché sur Internet et on a trouvé cette poésie. Et du coup, on l'a...
Comme on l'a bien aimé, comme la maîtresse l'a bien aimé.
Et ben on a essayé de l'apprendre et après pour aller voir Isabelle Damotte et puis poser des questions dessus.
Alors merci d'avoir répondu à notre question.
De rien.
Bonjour, je m'appelle Florence Coréaliane et je suis maîtresse à l'école Nicolas Leblanc à Bourges, dans une classe de CE2, CM1.
Connaissez-vous Isabelle Damotte ?
Eh bien, là, j'ai eu la chance de la rencontrer physiquement et puis on l'a découvert grâce au projet du Printemps des Poètes sur lequel on travaille, votre classe et la nôtre.
Si oui, que pensez-vous de ses poésies ?
Ce que j'aime dans les poésies d'Isabelle Damotte, c'est le fait qu'elles soient effectivement racontées plus comme des histoires et que son inspiration me semble être piochée dans la vie quotidienne. Et puis ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'elle évoque très souvent les relations et les liens très forts qu'on peut avoir dans une famille ou entre frères et sœurs ou entre parents et enfants.
Pensez-vous pouvoir écrire des poèmes comme elle ?
Non, je m'essaye à écrire des poèmes parfois, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir écrire des beaux poèmes comme Isabelle Damotte.
Pensez-vous que la poésie est importante dans notre vie ? Pourquoi ?
Alors, moi je pense que oui, parce que j'adore la poésie. Et il me semble avoir la réaction de mes élèves. Il me semble qu'effectivement, c'est une façon de découvrir des textes qui est peut-être plus facile d'accès pour vous, les enfants. Donc oui, c'est important. Et ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une liberté dans l'imaginaire et dans la fantaisie.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
De rien, c'est moi qui vous remercie. Bon travail, les enfants.
Quand et pourquoi avez-vous décidé d'écrire des poésies et de devenir un poète ?
Alors, ce n'est pas une décision. C'est comme ça, en fait. Je me suis aperçue dans ma vie que quand j'écrivais pas, j'étais moins heureuse que quand j'écrivais. Et je me suis aperçue que quand j'écrivais, ça me rendait... Parfois, ça me rendait un peu triste parce que c'est très dur. Mais que quand je réussissais à écrire, c'était ce qui me rendait le plus heureuse. Alors, j'ai pas pu y échapper, je suis devenue poète.
Quelles qualités faut-il pour être poète ?
Alors, il faut se rendre compte que les mots, dans la vie, c'est très important. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a des endroits où il n'y a pas de mots. Il y a des endroits pleins de silence. Et que ces endroits, c'est important d'y aller pour trouver les mots. Pour parler de choses gaies, de choses tristes. Et puis pour partager tout ça avec les autres. Voilà.
Combien de temps prenez-vous pour écrire un poème ?
Alors, il n'y a pas de temps pour écrire un poème, parce que même si tu l'as écrit en 10 minutes sur le coin d'une table, peut-être que tu y as pensé pendant des jours et des jours avant. Voilà, alors parfois ça s'écrit en 10 minutes, parfois en plusieurs jours. C'est très mystérieux, le temps des poèmes.
Quelles sont les idées, les thèmes qui vous inspirent pour écrire vos poèmes ?
C'est pas tellement que ce sont des idées ou des thèmes qui m'inspirent, c'est que j'écris sans trop réfléchir, sans trop me dire sur quoi je vais bien pouvoir écrire, et qu'en fait, pour l'instant, je me rends compte que tout ce que j'écris, ça tourne autour de l'enfance. Et c'est pas une volonté de ma part, c'est pas parce que j'ai décidé, c'est parce que je peux pas m'en empêcher.
Vous êtes-vous inspiré de d'autres auteurs pour écrire vos poèmes ? Si oui, lesquels ?
Alors, un poète qui écrit sans lire les autres poètes, je crois que ça n'existe pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on est poète, on trouve que les mots, c'est très important. On en a besoin, c'est comme des amis. Les mots, c'est nos copains, en fait. À chaque fois qu'on a un chagrin, hop, on va se consoler avec les mots des autres. À chaque fois qu'on a envie de rêver, hop, on va chercher les mots des autres. À chaque fois qu'on est amoureux, hop, on va lire des poèmes de poésie. Donc, en fait, on est tout le temps en train de lire les autres. Et des copains, j'en ai plein. J'ai des copains qui sont morts, comme Victor Hugo. Et puis, j'ai plein de copains vivants. David Dumortier, tu vois, par exemple, tout à l'heure, on en parlait. Emmaz, Alban Gelé. Voilà, je pourrais te donner plein de noms comme ça. Valérie Rousseau, qui sont des gens que je lis tout le temps, à chaque fois que je me sens seule.
Votre premier métier, enseignante, vous a-t-il incité à devenir poète ?
Non, ça ne m'a pas incité à devenir poète. Par contre, ça m'a donné le goût de partager la poésie avec les enfants. C'est vraiment en étant enseignante que je me suis aperçue que les enfants comprenaient si bien la poésie et qu'on pouvait faire plein de choses. On pouvait écrire des livres, on pouvait écrire des poésies, on pouvait faire des milliers de choses. Et ça, c'est vraiment des moments de bonheur pour moi. Donc c'est grâce à l'école, d'abord quand j'étais enfant, que j'ai découvert de la poésie, parce que moi, dans ma maison, chez moi, il n'y avait pas de livres. Donc c'est à l'école que j'ai découvert la poésie, et c'est en étant maîtresse que j'ai compris que j'aimais tant faire des choses autour de la poésie avec les enfants.
Écrire des poèmes, est-ce un métier ou une source de plaisir ?
L'avantage, c'est que c'est les deux, en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est un vrai travail. Un vrai travail, quand on a la chance de l'avoir, c'est quelque chose qu'on fait avec passion.
Pour finir, pouvez-vous nous dire un de vos poèmes préférés ?
Quand j'étais enfant, les deux poèmes qui m'ont le plus marqué, il y en avait un, c'était « Demain dès l'aube » de Victor Hugo. Et l'autre, c'était un poème sur la neige qui commençait par « Lente et calme, en grand silence, elle descend, se balance. » Voilà, c'était sur la neige et tombe confusément. Et c'est vraiment à l'école que j'ai compris que la poésie, ça, c'était un truc qui me plaisait, tu vois. Et puis maintenant, j'ai plein de poètes que j'adore. Mon poète, dans les poètes vivants contemporains, pas morts, je crois que celui que je préfère, c'est Jacoté. Philippe Jacoté. Et puis, il habite juste à côté de chez moi, dans un petit village, à Grignan.
Cette journée était pour ses élèves le point de départ d'un travail de préparation au 18e printemps des poètes, qui a pour thème cette année le grand 20e, 100 ans de poésie.
Dehors, ta joue et la mienne appuyées contre le vent arabe.
les mots comme ça, soit dans les... Hop ! Vous vous rendez compte, pour un écrivain, pour un poète, c'est un super cadeau. Ça veut dire que les mots, ils sont non seulement dans les livres, mais ils sont aussi dans vos têtes, quelque part. Ils se promènent, je ne sais pas trop où, mais ils vont se promener.